Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, autour aujourd'hui de La misère en milieu étudiant, célèbre brochure situationniste. Et nous avons dans une première partie parlé du contexte de cette brochure et de sa première partie consacrée à une critique radicale de l'université et de l'étudiant moyen. Et l'extrait que nous venons de passer, l'extrait sonore, est un peu une critique, voilà, des références idéologiques de l'étudiant moyen de cette époque, et qui sont parfois d'ailleurs encore des références de certains étudiants, plus des étudiants moyens pour le coup. Le niveau a peut-être un peu baissé à ce niveau-là. Enfin bref. Et donc nous sommes toujours avec Sylvain de Zone Subversive. Et nous allons maintenant passer à la présentation et à la discussion et à l'actualisation de la deuxième partie de ce texte qui s'intitule Il ne suffit pas que la pensée recherche sa réalisation, il faut que la réalité recherche la pensée. Qui, sous cette phrase un petit peu compliquée, veut dire qu'il ne suffit pas seulement que les idées deviennent des forces matérielles, pour faire référence au générique de Sortir du capitalisme. Mais il faut également que ceux et celles qui sont dans des situations concrètes recherchent une pensée adéquate pour faire face à cette situation concrète. Et c'est pour ça que globalement, cette deuxième partie est consacrée au mouvement des années 60. Donc on rappelle qu'on est avant mai 68. Donc mai 68 ne s'est pas passé. Donc évidemment, le contexte est encore celui d'un début d'ébullition. Ébullition qui va s'accentuer en 68 et dans les années suivantes dans pas mal de pays. Et donc ils font un peu une espèce de bilan parfois bienveillant, souvent critique des mouvements de leur époque dans divers pays qui vont des Provos néerlandais aux contestations sur les campus américains aux États-Unis et qui parlent également des beatniks. Et même des contestations au sein du bloc de l'Est et des révolutionnaires japonais. Et le début de ce texte est très intéressant puisqu'il commence ainsi. Après une longue période de sommeil léthargique et de contre-révolution permanente, s'esquisse, depuis quelques années, une nouvelle période de contestation dont la jeunesse semble être porteuse. Mais la société du spectacle, dans la représentation qu'elle se fait d'elle-même et de ses ennemis, impose ses catégories idéologiques pour la compréhension du monde et de l'histoire. Elle ramène tout ce qui s'y passe à l'ordre naturel des choses et enferme les véritables nouveautés qui annoncent son dépassement dans le cadre restreint de son illusoire nouveauté. La révolte de la jeunesse contre le mode de vie qu'on lui impose n'est, en réalité, que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste qui englobera l'ensemble de ceux qui éprouvent de plus en plus l'impossibilité de vivre, le prélude à la prochaine époque révolutionnaire. Seulement, l'idéologie dominante et ses organes quotidiens, selon des mécanismes éprouvés d'inversion de la réalité, ne peuvent que réduire ce mouvement historique réel à une pseudo-catégorie socio-naturelle. L'idée de la jeunesse, avec un grand J, dont il serait dans l'essence d'être révolté. Ainsi ramène-t-on une nouvelle jeunesse de la révolte à l'éternelle révolte de la jeunesse, renaissant à chaque génération pour s'estomper quand le jeune homme est pris par le sérieux de la production et par l'activité en vue des fins concrètes et véritables. La révolte des jeunes a été et est encore l'objet d'une véritable inflation journalistique qui en fait le spectacle d'une révolte. Cette révolte contre la société rassure la société parce qu'elle est censée rester partielle dans l'apartheid des problèmes de la jeunesse et ne durer qu'une partie de la vie. En réalité, s'il y a un problème de la jeunesse dans la société moderne, c'est que la crise profonde de cette société est ressentie avec le plus d'acuité par la jeunesse. Produit par excellence de cette société moderne, elle est elle-même moderne, soit pour s'y intégrer sans réserve, soit pour la refuser radicalement. Ce qui doit surprendre, ce n'est pas tant que la jeunesse soit révoltée, mais que les adultes soient si résignés. Ceci n'a pas une explication mythologique, mais historique. La génération précédente a connu toutes les défaites et consommé tous les mensonges de la période de désagrégation honteuse du mouvement révolutionnaire. Petit aparté, on pourrait dire exactement la même chose de la génération des gens qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, qui ont vécu la contre-révolution des années 80 et 90. Je referme la parenthèse, je continue enfin, je termine cette longue citation. Considérée en elle-même, la jeunesse, entre guillemets, est un mythe publicitaire déjà profondément lié au mode de production capitaliste, comme expression de son dynamisme. Cette illusoire primauté de la jeunesse est devenue possible avec le redémarrage de l'économie, après la Deuxième Guerre mondiale, par suite de l'entrée en masse sur le marché de toute une catégorie de consommateurs plus malléables, un rôle qui assure un brevet d'intégration à la société du spectacle. Mais l'explication dominante du monde se trouve de nouveau en contradiction avec la réalité socio-économique, car en retard sur elle, et c'est justement la jeunesse qui, la première, affirme une irrésistible fureur de vivre et s'insurge spontanément contre l'ennui quotidien et le temps mort que le vieux monde continue à sécréter à travers ses différentes modernisations. La fraction révoltée de la jeunesse exprime le pur refus, sans la conscience d'une perspective de dépassement, son refus nihiliste. Cette perspective se cherche et se constitue partout dans le monde. Il lui faut atteindre la cohérence de la critique théorique et l'organisation pratique de cette cohérence. Voilà, c'est une citation qui est un peu longue, mais que je trouvais très intéressante parce que, disons, par rapport à la suite de cette deuxième partie qui prend différents exemples, les blousons noirs, les Provos et les différents mouvements de contestation dans différents pays, elle essaye de réfléchir un peu globalement à la situation des jeunes dans le capitalisme. Donc des jeunes de cette époque, qui sont à la fois des figures du renouvellement du capitalisme, qui sont beaucoup plus intégrés dans la société de consommation que leurs parents, etc. Et on le voit même dans un livre comme Nous voulons vivre de Nanni Balestrini, où les premiers chapitres montrent bien que ces jeunes prolétaires qui vont devenir les plus fervents révoltés des années 70, au début, sont beaucoup des jeunes frustrés de ne pas pouvoir accéder plus largement à la consommation, et du coup frustrés de devoir travailler pour avoir accès à cette consommation. Et voilà, et d'un autre côté, voilà, ces jeunes vont être en même temps que les figures du renouvellement du capitalisme, également des figures de sa subversion manquée finalement, hein, à la fin des années 70, on peut le dire, et encore plus aujourd'hui. Mais tout de même, c'est principalement des jeunes qui vont animer les mouvements de contestation dans le monde entier au cours des années 60 et 70.
Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette partie de la brochure, c'est d'essayer de voir dans les mouvements contestataires de leur époque les potentialités, les ressorts un peu de dépassement de la société capitaliste. C'est-à-dire le fait de subir un peu ce mode de vie capitaliste. À la fois, ils ont envie de consommer, mais en même temps, il y a beaucoup de frustration parce qu'ils ne peuvent pas consommer. Et il y a aussi beaucoup de frustration dans leur quotidien. Voilà. Et que du coup, cette jeunesse est un moteur de révolte. Et c'est vrai que là, pour le coup, si on veut actualiser, ce serait intéressant d'observer les révoltes de la jeunesse qu'il y a eu en Tunisie, en Égypte en 2011, puis les mouvements Occupy aux États-Unis, un peu partout dans le monde, les mouvements des places en Espagne, en Grèce, etc., ou les mouvements comme l'an dernier en 2016, de voir que. Quelles sont ces nouvelles formes de contestation? Qu'est-ce qu'elles expriment? Le refus des vieux partis, des vieilles hiérarchies, etc. Et c'est vrai que dans les années 60, les situationnistes ont bien perçu que ces mouvements qui sont un peu nouveaux, qui prennent des formes nouvelles, hein, notamment la contestation étudiante aux États-Unis, les mouvements Provo en Hollande, qui sont vraiment nouveaux, qui ressemblent à rien du vieux mouvement ouvrier traditionnel, mais qui expriment une critique de la vie quotidienne en partie, qui expriment un rejet de la société capitaliste, pas forcément en termes de lutte des classes. C'est un peu ce que les situationnistes reprochent aux provos et aux contestataires américains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très liés aux luttes ouvrières, mais malgré tout, ils expriment une forme de contestation nouvelle sur laquelle il faut prêter attention et sur laquelle, si le mouvement ouvrier vient se greffer à ça, qu'il y a une jonction entre la jeunesse qui refuse l'avenir de cadre qui lui est proposé et le refus du travail des ouvriers, ça peut devenir explosif.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il souligne du coup que pour eux, jusque-là, il y a uniquement au Japon où il y a eu une espèce de convergence entre des étudiants radicaux et les travailleurs révolutionnaires, dans un truc qui d'ailleurs porte un nom rigolo puisque c'est la Ligue communiste révolutionnaire. Bon, alors c'est une traduction, donc et on verra que la Ligue communiste révolutionnaire, pour le coup, en France, évidemment, va être critiquée impitoyablement, comme tous les gauchismes, par l'internationale situationniste. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette réflexion de la brochure, c'est aussi d'essayer de faire un petit peu avec les évolutions du capitalisme. C'est-à-dire que là, bon, bah voilà, on est face à ces jeunes de classe moyenne qui n'ont pas envie de devenir des cadres. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux attitudes possibles, entre guillemets, c'est l'attitude du Parti communiste français. Enfin, il y a trois attitudes. C'est l'attitude du Parti communiste français qui est de dire ce sont des fils à papa, petits bourgeois, qui ont été une manière. Voilà. Et finalement, d'empêcher, parce que ça c'est quand même quelque chose de central dans mai 68, et en mai juin 68, ça a été la stratégie de la CGT et du PCF d'empêcher tout contact entre les étudiants radicaux, bon, qui étaient beaucoup des gauchistes, hein, pas très intéressants, mais bon, disons même. Ceux qui étaient situationnistes ou pro-situationnistes, et d'une part, et d'autre part, les mi-ouvriers. Ce contact s'est quand même fait à certains endroits, on le sait, mais évidemment, ça a forcément diminué l'impact que cette convergence aurait pu avoir, et cette convergence ne s'est faite qu'au niveau des bureaucraties, c'est-à-dire l'UNEF, au niveau de l'UNEF et du Parti communiste français. Là, avec des étudiants respectables et des ouvriers respectables, on peut faire une convergence. Alors, sinon, il y a des étudiants non respectables, fils à papa, bourgeois, aventuristes et tout ça, bon, on connaît. Et puis d'un autre côté, l'autre parti pris qu'on a déjà dénoncé dans la première partie de l'émission, c'est de dire super, ces classes moyennes, c'est merveilleux, elles incarnent le dynamisme, le renouveau. Et donc là, c'est l'attitude du PSU. Et donc les situationnistes, eux, ils essayent, plutôt que de s'accrocher à un vieux modèle très ouvriériste, et en même temps, en restant attaché disons, au mouvement ouvrier radical, celui du communisme de conseil et tout ça, d'essayer de faire quelque chose. Enfin, ils ont une certaine façon une intelligence de la situation, bah voilà, qui va quand même beaucoup jouer dans leur succès en 68. Succès relatif, hein, évidemment, ça n'a pas été une révolution, mais c'est vrai que c'est une pensée qui a porté en 68 parce qu'elle a tenu compte des réalités de son époque, c'est-à-dire cette révolte de cette jeunesse promise un emploi de cadre, et d'un autre côté, la révolte des ouvriers spécialisés, dont on a parlé dans l'émission avec Bruno Astarian, qui en ont marre de l'augmentation des cadences, du travail et tout ça. Et les situationnistes, finalement, se greffent un peu à l'intersection de ces deux pointes de radicalité, finalement, qui ne vont pas transformer la société, malheureusement, mais qui. À l'époque, en tout cas, formaient peut-être ce qu'il y avait de plus, les deux forces un petit peu révolutionnaires de leur époque.
Et les situationnistes parlent également des bousons noirs. Donc dans les années 60, ce sont des jeunes issus de milieux populaires, ouvriers, etc., qui sont un peu tournés vers la délinquance, le vol, etc. Et les situationnistes vont être attentifs à cette forme de révolte contre la société, qui est souvent une révolte individuelle, c'est-à-dire c'est des jeunes qui ne veulent pas bosser à l'usine comme leurs parents, qui n'est pas forcément une révolte exprimée de manière politique, mais qui montre quelque chose de l'air du temps, du refus du travail, etc. Alors les situationnistes, évidemment, critiquent l'aspect non collectif de cet aspect-là, c'est-à-dire il manque effectivement un mouvement social, mais c'est vrai que ça fait songer aux attitudes qu'il y a eu, notamment aux émeutes de 2005 en France, où les groupuscules gauchistes, la gauche et l'extrême gauche, ont eu une attitude un petit peu méprisante à l'égard des jeunes émeutiers qui exprimaient pourtant une révolte politique contre les violences policières, en disant est-ce que ça est bien politique, est-ce que c'est pas pré-politique, infra-politique, etc. Enfin voilà, tout un tas de manières de discréditer ça, alors que c'est vrai qu'on peut y voir aussi un refus de ce mode de vie, de l'encadrement policier, de l'obligation à faire un boulot de merde, de payer des miettes, à travailler, à pédaler sur des vélos Deliveroo, à bosser en intérim, etc., etc. Il y a aussi un refus du travail qui s'exprime aujourd'hui aussi dans la jeunesse, Je pense que ce serait intéressant de s'appuyer sur ces aspects-là pour essayer de déboucher vers des mouvements qui ne sont pas dans la contestation syndicale traditionnelle. On veut une augmentation de salaire,
Ou on
etc.
veut une
Ou une
intégration.
intégration, ou des aménagements à la marge, mais quelque chose qui exprime un refus radical de la société capitaliste, du travail, de la marchandise. Voilà, et je pense que ce serait intéressant de reprendre cette démarche, de voir ce qui, dans la société actuelle, porte des éléments de dépassement de la société capitaliste et des éléments de révolte.
Oui, et c'est là qu'on peut se poser la question. Moi, j'ai aucune réponse à ça, mais comment est-ce que... Je pense qu'il y a bon, il y a des explications relativement simples, mais c'est vrai que, effectivement, quand on pense voilà, à la description des blousons noirs, celle des émeutes de 2005, et qu'on met ça en regard avec le roman de Danny Balestrini, Nous voulons tout, on se dit que, bah, au départ, finalement, le personnage de Danny Balestrini, donc, qui va devenir militant de Potter Operaio, voilà, pour situer, donc voilà, on va dire pas des autonomes italiens, mais enfin, voilà, disons oui, de l'autonomie ouvrière italienne, il part un peu du même milieu sociologique, c'est-à-dire le refus du travail, la volonté, mais une révolte très individualiste, finalement, où il y a une espèce de frustration, d'un manque de consommation, où à la limite l'individualisme va être uniquement dépassé sous forme de bande, hein. Il y a une critique dans le texte des situationnistes de la bande, et qui fait que finalement, c'est la logique de la bande, c'est une reconduction de la séparation capitaliste. C'est-à-dire que, au sein de chaque bande, chaque individu est séparé, parce qu'il ne peut pas vraiment, disons, établir un dialogue avec les autres, puisque sinon il risquerait de mettre en danger sa position hiérarchique, son honneur et tout ça. Et en même temps, chaque bande est isolée, puisque chaque bande se crée par justement la conflictualité qu'elle a avec d'autres bandes. Dans le roman de Danny Balestrini, le personnage principal part de cette situation individualiste, voire en bande, et arrive à dépasser ça par un milieu, bah justement par la rencontre avec une. Voilà, une forme de contestation un peu radicale, c'est d'ailleurs intéressant dans le roman de Danny Balestrino. C'est cette rencontre de ce jeune révolté individualiste qui finalement veut pas travailler mais veut bien consommer, avec des étudiants un peu radicaux. Et c'est vrai que alors il y a eu en 2016-2017 quelques tentatives de jonction hein, de ces milieux très disparates, mais globalement on peut dire que la société capitaliste continue d'être une société qui sépare bien. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de jonction, même si au fur et à mesure bah oui, peut-être de la dégradation des conditions de vie au sein du capitalisme, espérons qu'il y aura des formes de jonction qui se créeront et qui reproduiront les jonctions qui ont eu lieu dans les années 60 et 70, quoi. Surtout en Italie.
Alors moi, je critique la jonction parce qu'effectivement, c'est conçu de manière en gros organisationnelle, quasiment réunion d'état-major où il y aura, voilà. Je pense qu'en 2016, il n'y a pas eu de jonction, mais il y a eu dans la révolte des lycées, les blocages de lycées, c'était beaucoup des lycées professionnels qui avaient bien vu que dans la loi travail, il y avait quelque chose qui concernait le statut des lycéens pro, voilà, de l'apprentissage. Et que, bon, il y avait un côté ludique de blocage, d'émeute, de jeu à chat et à la souris avec la police, mais il y avait aussi, je pense, une prise de conscience que la vie qui leur est réservée allait être très peu réjouissante s'il n'y avait pas un mouvement de révolte. Et je pense qu'il n'y aura pas de mouvement de jonction, mais ce qui est possible, c'est qu'il y ait un mouvement global
Oui.
où tout le monde se rencontre dans un même mouvement de révolte. Même si ce n'est pas au même moment, dans les mêmes manifestations, dans les mêmes lieux, mais qu'à un moment donné, l'ensemble de la population se révolte. Et puis, effectivement, la jonction, elle peut se faire dans une réflexion collective pour le dépassement de la société actuelle et pour d'autres perspectives de société.
Oui, c'est ça, il ne s'agit pas voilà, de se plier au mot d'ordre de la convergence des luttes avec un côté très artificiel, finalement très bureaucratique, et du coup avec le mot d'ordre un peu de l'unité qui historiquement a quand même été très foireux comme mot d'ordre, puisqu'il a été utilisé par le mouvement ouvrier réformiste pour écarter toutes les contestations en son sein et en dehors de lui, pour dire ce qui compte c'est la lutte de classe sérieuse et après tout le reste. Aventurisme et contradictions secondaires. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il s'agirait plutôt de, oui, que, bah, disons que chacun parte de là où il, chacun parte de là où il est collectivement et essaye d'aller le plus loin possible dans la contestation contre laquelle dans laquelle il s'inscrit d'abord. Ça peut être Voilà, selon l'endroit, ça va être les violences policières ou les violences sexistes ou la précarité. Contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire où la convergence de lutte se fait beaucoup sur finalement des mots d'ordre très timorés qui conviennent un peu à tout le monde, du genre on est contre les violences policières, mais on est pour une bonne police, on est contre la précarité, mais pour un bon voilà pour
Mon salaire à vie,
un
donc j'ai
salaire à
acheté.
vie, voilà, voilà ce genre de choses. Et évidemment qu'il ne s'agit pas de promouvoir ça ici, quoi. Et justement, le danger qui guette les révoltes un peu individualistes des quartiers populaires, les situationnistes, même si on ne sera pas forcément d'accord avec tous les termes, le pointent déjà au niveau des blousons noirs dans les années 60, puisqu'ils disent « Les blousons noirs expriment avec le plus de violence apparente le refus de s'intégrer. Mais le caractère abstrait de leur refus ne leur laisse aucune chance d'échapper aux contradictions d'un système dont ils sont le produit négatif spontané. Les blousons noirs sont produits par tous les côtés de l'ordre actuel. L'urbanisme des grands ensembles, la décomposition des valeurs, l'extension des loisirs consommables de plus en plus ennuyeux, le contrôle humaniste policier de plus en plus étendu à toute la vie quotidienne, la survivance économique de la cellule familiale privée de toute signification. Ils méprisent le travail, mais ils acceptent les marchandises. Cette contradiction fondamentale domine toute leur existence. Pour sortir de cette contradiction, le blouson noir devra finalement travailler pour acheter des marchandises. Et là, tout un secteur de la production est expressément fabriqué pour sa récupération en tant que consommateur. Moto, guitare électrique, vêtements, disques. On pourrait dire que le rap, c'est quand même une énorme industrie culturelle qui vise à la récupération de cette contestation. Et qui, évidemment, pas tout le rap, mais le rap mainstream qu'on passe en boucle sur Energy et Skyrock, c'est une récupération marchande de cette révolte sous forme de consommation, où on va payer enfin, les concerts de rap en général, ils sont pas voilà c'est ils sont pas gratuits, ils coûtent plutôt cher. Et on voit bien qu'évidemment, il y a des gens qui. Enfin, il y a presque une espèce de marché de la révolte tant qu'elle est récupérable sous forme de disques et de concerts vendus, quoi. Je continue. Ou bien il doit s'attaquer aux lois de la marchandise, soit de façon primaire en la volant, soit d'une façon consciente en s'élevant à la critique révolutionnaire du monde de la marchandise. La consommation adoucit les mœurs de ces jeunes révoltés et leur révolte retombe dans le pire conformisme. Le monde des blousons noirs n'a d'autre issue que la prise de conscience révolutionnaire ou l'obéissance aveugle dans les usines. Bon, il y a des choses un peu critiquables en sexe, et puis il faudrait réactualiser aujourd'hui, mais je trouve que malgré tout, il y a des choses assez intéressantes sur l'impératif de transformer une révolte individuelle en une révolte collective, organisée, comme il y a pu avoir dans les années 70 en Italie, où des jeunes prolétaires se sont organisés pour le refus du travail, mais aussi le refus de la société de consommation, à travers tout un tas de pratiques qu'on a décrites dans d'autres émissions, comme les autoréductions, etc.
Ouais, mais je pense qu'effectivement, ensuite, les individus, les prolétaires, ne deviennent pas révoltés, forcément de manière spontanée, parce qu'effectivement, on est traversé par tout un tas de contradictions dans la société actuelle, où à la fois, effectivement, on ne veut pas travailler, en même temps, on a envie de consommer telle ou telle chose. Mais ce qui fait la prise de conscience révolutionnaire, alors ça peut être de lire cette brochure sur la misère en milieu étudiant, et c'est surtout quand même des rencontres et surtout des moments de lutte que l'on vit, que l'on rencontre, etc. Quand on est confronté à un mouvement de grève, à un mouvement de révolte, etc., qu'on est amené à y participer, je pense que c'est ces moments-là qui permettent la prise de conscience révolutionnaire.
Oui, et c'est bon, il n'y en a eu que des rudiments en 2016 et 2007, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des choses qui sont passées de manière intéressante, effectivement, au moment des blocages de lycée. Là, effectivement, on en est vraiment encore au prodrome d'une réelle, déjà de lutte un peu radicale et aussi d'une prise de conscience révolutionnaire. On n'en est même pas en 1967, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des signes un peu encourageants aujourd'hui qui se font jour. Après, pour passer à un autre sujet, je pense qu'on va pas trop parler des provos aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'équivalent. Donc, ils font une critique du mouvement provos, qui sont des espèces de, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, de créatifs culturels, subversifs, mais pas tant que ça. Donc, on vous laisse lire cette partie-là dans la brochure, qui se trouve donc page 14 et 15, donc on la trouve sur Infocus que la brochure, hein, d'ailleurs j'en profite pour le préciser. Ce qui est aussi intéressant, c'est donc ils parlent du mouvement dans les campus américains, et ils disent deux choses. C'est intéressant parce qu'il y a une critique de leur devenir de cadre, donc un refus de devenir cadre. Il y a un refus de devenir cadre de la société capitaliste états-unienne en guerre contre le Vietnam. Mais d'un autre côté, ils disent quand même que malheureusement, beaucoup de ces milieux étudiants, comme ils n'ont pas forcément énormément de réflexions ou d'éléments historiques, ont tendance à se tourner vers l'adversaire autoproclamé du capitalisme états-unien, c'est-à-dire le capitalisme d'État bureaucratique du RSS, du Vietnam, de Chine ou de Cuba, comme étant un petit peu voilà une figure révolutionnaire, comme étant des figures révolutionnaires, alors qu'on sait bien qu'en réalité elles n'en sont pas quoi.
Oui, là je pense que c'est un point important à souligner, c'est-à-dire que les situationnistes à cette époque ont un regard totalement critique et implacable sur tous les régimes qui se proclament communistes. Que ce soit Cuba qui fait rêver beaucoup de monde, beaucoup d'intellectuels, l'URSS évidemment, le Parti communiste, la Chine maoïste, etc. Sans parler des régimes du tiers-monde, etc. C'est vrai qu'ils maintiennent une critique de la bureaucratie, des régimes bureaucratiques, de la classe bureaucratique comme classe dirigeante. Permet de garder un peu de lucidité par rapport à tous ces régimes exotiques, hein, comme aujourd'hui on a le Venezuela, les insoumis qui s'enthousiasment pour ces régimes-là, ou en tout cas qui n'osent pas les critiquer ouvertement. Je pense que c'est important de dire qu'il y a un refus à la fois du capitalisme bureaucratique et des régimes qui se disent communistes, et à la fois un refus du capitalisme libéral, occidental, etc. Et que c'est bien de ne céder sur aucun des deux, parce que sinon on sombre dans l'acceptation de n'importe quel régime. Alors en plus avec Cuba, il y avait l'aspect exotique, machin, les cigares, Che Guevara, etc. Et c'est important de dénoncer tous ces régimes-là qui ont pu fasciner une certaine jeunesse à une époque. Voilà.
Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs à un moment dans cette brochure, que accepter une oppression, c'est déjà accepter toutes les autres oppressions, quoi. Et donc il faut surtout pas accepter telle oppression, l'oppression, je sais pas, policière à Cuba, parce que en fait finalement on revient à accepter en bloc toutes les oppressions sociales, en les justifiant à chaque fois sous un autre nom, le progrès, les lois de l'histoire, la dialectique, le prolétariat, la dictature du prolétariat ou je ne sais quoi. Après, il y a autre chose qui est intéressant dans cette brochure et qui fait écho évidemment aujourd'hui, c'est la critique des beatniks. Là, je vais lire deux citations qui font éminemment écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ils commencent à critiquer la Mystic New Age qui va souvent avec une consommation de stupéfiants et autres narcotiques. La consommation en masse de la drogue est l'expression d'une misère réelle et la protestation contre cette misère réelle. Elle est la fallacieuse recherche de liberté dans un monde sans liberté, la critique religieuse d'un monde qui a lui-même dépassé la religion. Donc là, évidemment, ça fait penser à un passage... ce qui n'est pas le plus connu de la critique de la religion de Marx, puisque la plus connue, c'est évidemment « La religion est l'opium du peuple », donc c'est bien, on est dans la thématique des drogues. Mais c'est un passage où Marx critique voilà, le fait que la religion, c'est l'âme d'un monde sans âme. Donc là, les situationnistes font une critique de la consommation de drogue qui finalement ressemble un peu à la critique de la religion de Marx, c'est-à-dire à la fois c'est une critique implacable, et en même temps en disant que oui, mais c'est pas, ils sont pas dans une critique moraliste de la consommation de drogue, mais ils disent bah, c'est tout simplement la fallacieuse recherche de liberté dans un monde sans liberté. Et je poursuis la citation. Ce n'est pas par hasard qu'on la retrouve surtout dans les milieux beatniks, cette droite des jeunes révoltés. Et donc là, évidemment, on pense à des mouvements aujourd'hui comme Colibri, qui sont un peu la droite des jeunes révoltés. Et donc je poursuis la citation. Foyer du refus idéologique et de l'acceptation des superstitions les plus fantastiques. Zen, spiritisme, mysticisme de la New Church et autres pourritures comme le gandhisme ou l'humanisme. Donc là, évidemment, on pense à toute la mode qu'il y a aujourd'hui autour du développement personnel, de l'écosophie et de tout un tas d'autres mouvements qu'on n'a pas trop le temps ni l'envie de parler ici. Mais on voit quand même dans ce que dit cette brochure situationniste, comment est-ce que la révolte peut s'exprimer d'une multitude de manières et notamment d'une manière spiritualiste finalement en niant la dimension de conflictualité et le caractère structurel de la misère de la vie capitaliste et se réfugie dans la drogue et des croyances spiritualistes. Évidemment, c'est pas pour critiquer toute forme de spiritualité en soi, mais là, en l'occurrence, elle procédait, et elle procède malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, d'une forme de refus de la contestation, d'une contestation radicale, quoi.
Oui, alors sur ce mouvement, c'est quand même le mouvement des hippies. Moi, je serais plus nuancé, parce que les hippies, dans les années 60, il y a effectivement cette tendance à l'évasion, au voyage, à la drogue, etc. Il y a un autre courant des hippies qui sont plus portés vers la contestation, les diggers, les mouvements de Jerry Rubin, etc., qui sont assez intéressants, finalement, dans le sens où il faut une critique de la vie quotidienne, où il faut une critique de la marchandise aussi, avec des repas gratuits, des théâtres de rue, etc. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est effectivement d'être peu lié aux luttes de classe, aux luttes ouvrières, et d'être dans un mouvement uniquement contre-culturel. Et c'est vrai qu'il y aura une dérive généralisée du mouvement hippie, avec Woodstock, etc., qui va plus essayer d'être dans une libération individuelle, sans essayer de changer la société qui est autour, la société capitaliste, avec cette illusion que par la drogue, le voyage, la musique, etc., on peut s'offrir des moments de liberté, des îlots de liberté, dans un monde totalement aliéné. Effectivement, ça, c'est illusoire. Et je pense que cette critique est assez pertinente. Alors, pour parler des colibris, mais les colibris, c'est même pas la droite des jeunes révoltés. C'est la droite des nouveaux entrepreneurs néo-ruraux totalement bidons. Je pense qu'on n'est pas là dans les mouvements de contestation. Moi, ça me fait plus penser, alors, des mouvements, du coup, proches de nous, contestataires, etc. Il y a des composants, voilà, la ZAD, les squats, à nuit debout aussi, de drogués. Bon, voilà, je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, d'alternatifs. Hein, qui cherche dans ces mouvements-là pas une manière de s'opposer au capitalisme, de renverser la société marchande, mais plutôt d'avoir un mode de vie alternatif. Alors que ce soit par la drogue, par la spiritualité, je sais pas. Et je pense que c'est important de porter ce critique des mouvances alternatives qui veulent faire des alternatives à côté de la société marchande, en pensant que c'est possible, alors que malheureusement la société marchande nous traverse. Ces logiques sont partout. Et je pense que la logique de la fuite, de l'évasion, que ce soit par la drogue ou par un mode de vie alternatif, par le voyage, est illusoire.
Alors, pour finir un peu sur la brochure, donc les auteurs de la brochure parlent également des contestations qui existent au sein du Bloc de l'Est. Alors on voit qu'ils ne sont pas hyper renseignés dessus, c'est assez bref, mais en gros ils disent qu'il y a effectivement des contestations au sein du Bloc de l'Est et qui sont plutôt radicales, selon eux. Et ils parlent également des forces et des limites des révolutionnaires japonais. Alors au niveau de leurs forces, eux ont bien assimilé l'idée qu'il ne fallait ni se placer du côté du capitalisme libéral de l'Ouest, ni du côté du capitalisme bureaucratique de l'Est. Mais malgré tout, ils ne sont pas encore arrivés à une critique de type situationniste de la société marchande et du spectacle. Ils restent malgré tout à une forme de critique qui est plus ancienne, qui est un peu celle de socialisme barbarie, ou à la limite du conseillisme. Alors, ils précisent pas trop quelle est l'orientation politique. À mon avis, s'ils en disent quelque chose de positif, c'est que c'est probablement pas des trotskistes, quand même, vu ce qu'ils disent des trotskistes dans la troisième partie de l'émission. Mais enfin, en tout cas, ils pointent certaines limites sur le fait qu'ils n'ont pas encore intégré, et ça c'est peut-être un des apports fondamentaux du situationnisme, d'intégrer la critique de la vie quotidienne et pas seulement la critique de l'exploitation de classe.
Oui, tout à fait. Ensuite, c'est les mouvements de jeunesse que les situationnistes semblent préférer parce qu'il y a une organisation anti-hiérarchique, d'après ce qu'ils disent. Moi, je ne connais pas assez bien les Angakuren pour vérifier, pour approuver ou non, mais ils disent que c'est une organisation anti-hiérarchique, qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'étudiant ou d'ouvrier, c'est chaque personne qui se considère comme prolétaire. Voilà. Et il y a une dimension effectivement de lutte de classe. Les Angakuren, on a les images de cette manifestation avec ces longs bâtons qui va attaquer la police, donc assez impressionnante. Mais effectivement, ça s'inscrit pas forcément dans une critique de la vie quotidienne, dans une critique de la société bourgeoise dans son ensemble, qui va être un peu l'originalité des situations, de relier la lutte des classes et la critique de la vie quotidienne.
Voilà, et ben on en reparlera dans la troisième partie de l'émission, qui est consacrée donc à la troisième partie de la misère en milieu étudiant, et qui va nous permettre d'aborder un peu plus profondément la critique de la société capitaliste des situationnistes, puisque c'est à ce moment, c'est dans cette troisième partie qu'ils arrivent à un niveau un peu plus général et qu'ils esquissent également leur idée du dépassement révolutionnaire du capitalisme.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changin'.